Désirons-nous un réveil spirituel? Désirons-nous faire l'expérience de changements positifs dans notre vie et dans notre vie d'église, des changements qui plaisent à Dieu? Oui. Voulons-nous expérimenter chaque jour la joie qui vient de Dieu et sa puissance pour nous soutenir en toutes circonstances? Vous êtes peu, hein? Est-ce que nous voulons grandir dans la sainteté, dans l'amour pour Dieu et pour les autres de manière incroyable? Ah! Le texte que nous allons prendre nous donnera trois clés essentielles pour un renouveau spirituel, pour un réveil spirituel. Nous continuons notre série de prédications sur le livre de Néhémie qui s'intitule « Bâtir l'avenir avec Christ ». Nous passons maintenant au chapitre 8, qui est un réveil extraordinaire vécu par le peuple de Dieu après avoir reconstruit les murailles de Jérusalem et le temple. Ce texte va nous aider à répondre à cette question. Comment vivre un réveil spirituel? Quand je parle de réveil spirituel, je parle ici de profond changement par l'action de Dieu en nous et dans la communauté de l'Église. On pourrait dire aussi comment, ou plutôt quels sont les ingrédients essentiels d'un réveil spirituel. Qu'est-ce qui montre que Dieu est à l'œuvre parmi nous? Nous allons y aller maintenant. Comment vivre un réveil spirituel? Premièrement, désirons ardemment écouter la parole de Dieu. Désirons ardemment écouter la parole de Dieu. Lisons Néhémie chapitre 8, verset 1. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Waouh ! Quelle scène extraordinaire ici. Juste avant, grâce au chapitre 7, nous pouvons dire qu'il y a une foule entre 40 et 50 000 personnes, membres du peuple de Dieu. Juste que ça, quoi. Cette foule immense vient voir Esdras. Je ne sais pas comment ils sont pris, je pense qu'ils devaient avoir des porte-paroles, puisque avoir 40 à 50 000 personnes qui viennent vers vous, ça fait quand même flipper, hein. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent vers cet érudit de la loi pour lui demander d'apporter le livre de la loi de Moïse, pour en faire la lecture, afin que chacun conforme sa vie à la volonté de Dieu. Esdras était un enseignant de la loi de Dieu. On lit dans Esdras chapitre 7, verset 10, « Esdras prenait soin, grand soin, d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit en Israël, aux Israélites. » C'était son job, c'était son travail. Esdras avait exhorté auparavant le peuple de Dieu à revenir à la parole de Dieu il y a environ 13 ans, car plusieurs s'étaient détournés de la loi de Moïse. Mais maintenant, nous assistons à l'un des changements les plus incroyables, extraordinaires de toute l'histoire du peuple de Dieu. Le peuple a vraiment soif de revenir à la parole de Dieu. Elle veut l'entendre, elle veut s'y conformer. J'imagine cette foule immense dire à Esdras, « Esdras, lis-nous la parole de Dieu. Nous avons terminé les travaux de reconstruction des murailles. Nous avons fini aussi le temple de notre Dieu. Nous avons maintenant tous soif d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Nous avons soif de Dieu. » Nous assistons à ce qu'il y a de plus important, les amis. Le plus important n'était pas la reconstruction des murailles de Jérusalem, ni l'embellissement de cette ville, mais la parole de Dieu. Si nous décidons d'agrandir les locaux de l'église d'Ozoir ou d'aller dans une autre direction pour accueillir plus de personnes, nous devons retenir ceci. Le plus important, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas tous les travaux à effectuer, Le plus important, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le plus important, c'est la croissance de la parole de Dieu dans nos cœurs. Une soif toujours plus grande de cette parole, de Dieu et sa parole. On pourrait être tenté, en voyant ce texte, de dire que c'est grâce à Néhémie qu'il y a un grand réveil spirituel parce qu'il avait rassemblé le peuple pour reconstruire la muraille et pour le temple. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste de dire cela. On pourrait dire qu'il a contribué à cela. Mais on a bien vu juste avant que Dieu est celui qui a orchestré tout cela dans les textes que nous avons pu voir. Et si vous voulez les revoir, il suffit de les relire ou de revoir les prédications sur YouTube, le YouTube de l'Église. Dieu est celui qui a orchestré tout cela, qui a utilisé Néhémie, qui a préparé Néhémie et aidé son peuple à reconstruire les murailles de Jérusalem et le temple. C'est Dieu qui a préparé Esdras et tous les Lévites qu'on verra dans quelques instants pour ce grand jour. Dieu a touché son peuple par son esprit. Mes amis, nous assistons à une action surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui insuffle à son peuple, dans son peuple, une grande soif de sa parole. J'ai envie de dire ce matin, Seigneur, insuffle en nous cette soif de ta parole. Apporte ce réveil dans notre vie et dans notre vie d'église. Imaginez Esdras qui doit être ému peut-être jusqu'aux larmes de voir toute cette foule de personnes si assoiffées de Dieu. Alors qu'avant c'était lui qui cherchait le peuple pour qu'il revienne à Dieu, à cette parole. Maintenant c'est le peuple de Dieu lui-même qui vient à Esdras pour lui dire qu'ils ont soif. Lis-nous la parole de Dieu, apporte-nous ce livre. La suite est impressionnante, verset 3. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Imaginez, le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi pendant, on pense, vu que l'aube à midi, ça fait... On suppose que c'est 6 heures là, clairement. C'est énorme! En 6 heures, ils ont certainement eu le temps de lire toute la loi dans son intégralité. Peut-être que c'était toutes les 5 premiers livres de l'Ancien Testament en entier ou une portion, puisque après on verra la suite qu'il fallait expliquer tout cela. Mais comment le peuple a-t-il fait pour rester attentif à la lecture de la loi pendant 6 heures? Aujourd'hui, nous sommes capables d'à peine 15 minutes d'attention, voire moins. Nous sommes tellement sur notre montre, n'est-ce pas? Le culte doit commencer à l'heure. Et puis, il doit terminer à l'heure. Le prédicateur, il est un peu long, là. Oh, la présidence, là, les chants, là, sont un peu longs ce matin. Le texte ne parle pas de timing, là. Il est question ici d'une soif de la parole de Dieu, une soif inlassable de Dieu et de sa parole. 6 heures, les amis. Avons-nous une telle soif de la parole de Dieu? Avons-nous un cœur affamé pour la parole de Dieu? Désirons-nous la parole de Dieu aussi fortement qu'avant? Passons-nous du temps chaque jour ou régulièrement en semaine pour la méditer, parce qu'elle est un trésor pour nous? L'écoutons-nous avec attention lors du culte? On a entendu des beaux textes ce matin. Est-ce qu'on écoutait avec attention parce qu'on aime cette parole, parce qu'on aime notre Dieu? Quelle place la parole de Dieu a-t-elle dans notre vie? Quelle place la parole de Dieu a-t-elle dans notre vie d'église? Lisons les versets 5 et 6. Esdras, comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen ! Amen !» en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Imaginez, 40 à 50 000 personnes qui font ça. Waouh ! C'est énorme. Quelle révérence ! Quel respect pour la parole de Dieu ! Le peuple est conscient que la loi de Moïse n'est pas n'importe quoi. Il sait que ce ne sont pas des mots juste sur du papier, mais que c'est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'idolâtrer un livre ici, mais d'être conscient que la parole de Dieu vient de Dieu lui-même et que Dieu mérite respect, reconnaissance, louange, vénération, adoration. Personnellement, je trouve qu'avoir notre Bible dans nos smartphones est une énorme bénédiction. Il y a toutes les versions de la Bible dedans, et dans toutes les langues. Mais l'avoir partout peut nous faire oublier sa valeur et son importance. C'est la parole de Dieu, pas seulement un tas de mots dans une application sur smartphone ou dans des pages. C'est incroyable, les amis, que nous soyons ici ce matin. Regardez ce qu'on est en train de vivre. Nous sommes ici ce matin pour écouter la parole de Dieu, pour essayer de comprendre ce qu'elle veut nous enseigner. Le livre le plus extraordinaire et le plus important au monde, c'est la Bible. Ce livre est capable de transformer nos vies. Ce livre peut nous conduire sur le chemin du vrai bonheur. Ce livre nous dit pourquoi nous existons, où nous allons. Quel avenir nous attend? Ce livre nous révèle avant tout qui est Dieu, son beau projet pour nous tous et l'espérance de la vie éternelle si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Mes amis, considérons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Gardons une haute estime pour la parole de Dieu. Parce que le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous l'a offerte pour se révéler à nous et pour que nous le suivions, pour que nous vivions pour lui. Allons maintenant dans Néhémie, donc chapitre 8 toujours, versets 7 à 8. Il y a 13 noms de Lévites et d'autres qui ne sont pas mentionnés. Je ne vais pas tous les mentionner comme ça. Voilà. Ils expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu est expliquée au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. L'assemblée, on l'a vu, était nombreuse. Et il n'y avait pas de micro comme maintenant ou de haut-parleurs, n'est-ce pas? On peut supposer que ces Lévites qui avaient la responsabilité d'expliquer la loi se sont répartis parmi la foule et que chacun d'eux a regroupé un certain nombre d'auditeurs autour de lui pour leur traduire et leur expliquer la loi. En parlant de traduction, la loi a été écrite en hébreu. Mais après le retour de l'exil en Babylonie, la plupart des Juifs parlaient l'araméen. Les Lévites ont vraisemblablement dû traduire le texte hébreu qui n'était pas plus compris pour une bonne partie de la population. Voilà pourquoi il fallait le traduire. Mes amis, la lecture de la Bible devrait être expliquée afin que tous puissent comprendre ce qu'elle enseigne. C'est important. C'est vraiment important. Et je remercie notre Dieu pour tous les prédicateurs de cette église qui nous permettent d'approfondir la parole de Dieu. Le rôle des prédicateurs n'est pas de dire ce qui leur passe par la tête, ni d'animer la galerie. Hein? Ouais, il a trop bien prêché parce qu'on a trop rigolé. Ce n'est pas leur rôle, ça. Leur rôle est très sérieux, car ils seront jugés plus sévèrement par Dieu pour leur enseignement, mais aussi pour leur comportement qui doit être conforme à leur enseignement. Leur rôle est de creuser le texte biblique pour l'exposer fidèlement l'expliquer du mieux possible, afin que nous puissions comprendre quoi ? La parole de Dieu. Et que la parole de Dieu. Bien sûr, le but est de la comprendre et de la vivre. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous contenter de la prédication. La prédication du dimanche matin, nous en avons besoin. Mais nous ne devons pas nous en contenter. Voilà pourquoi nous avons des groupes de maison. Pour creuser la parole de Dieu ensemble. Poser plusieurs questions autour du texte. Afin que ce texte façonne notre vie. Nous devons aussi la méditer régulièrement, dans la semaine, telle une nourriture. Est-ce qu'on peut vivre sans manger ? Eh bien, spirituellement, la vie spirituelle, elle a besoin de nourriture. Je ne peux pas vivre spirituellement, je ne peux pas grandir dans ma foi sans nourrir ma foi. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 3, j'aime beaucoup ce texte. Pierre dit ceci, « Comme des enfants nouveau-nés, pensons à des nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment, quoi ? Le lait de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » C'est surtout les mamans qui savent de quoi on parle. Quand le bébé a faim, aïe aïe aïe, ça va chauffer si on ne lui donne pas son lait. Désirez ardemment. Mes amis, pour vivre un réveil spirituel, tout commence par un désir intense et un amour profond pour la parole de Dieu. Le vrai réveil ne vient jamais sans cette faim dévorante de la parole de Dieu. Chaque jour, soyons comme un bébé qui réclame son lait. Notre désir doit être aussi fort qu'un bébé. Comment vivre un réveil spirituel ? Deuxièmement, prenons au sérieux la parole de Dieu. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Verset 9. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Juste un verset. Quelques lignes, mais énormes. La loi de Dieu n'a pas laissé le peuple de Dieu neutre. Les gens prenaient vraiment au sérieux tout ce qu'ils entendaient de la parole de Dieu. Ils ont pris pour eux tout ce que la loi enseignait. Ils étaient bouleversés et brisés par leurs péchés. Cela va être encore plus souligné dans le chapitre suivant, le chapitre 9, dans les premiers versets, et même dans cette prière qui va être donnée. On verra ça dimanche prochain. Les gens prenaient vraiment au sérieux tout ce qu'ils entendaient. Ils sont bouleversés, brisés par leurs péchés. La parole de Dieu a révélé au peuple l'étendue de ses péchés et les conséquences tragiques de sa rébellion. La parole de Dieu l'a amené à la culpabilité, à une profonde tristesse qui s'est manifestée par des larmes. C'est comme si je suis en train de prêcher et je vois tout le monde en face de moi qui commence à être en larmes. J'entends les larmes, je le vois. Tout le monde est touché. Quelle action surnaturelle qui se passe ici. Le peuple est plongé dans le désespoir devant ses innombrables fautes. Mes amis, prenons-nous la parole de Dieu au sérieux à ce point. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible, ou écoutons une prédication, laissons-nous la parole de Dieu nous toucher, nous bouleverser, nous révéler ce qui ne va pas en nous. Attention à deux choses. Attention au danger d'écouter la parole de Dieu uniquement pour les autres. Ah, ce matin, le message était bon. C'était pour ma femme. C'est dommage qu'elle n'était pas là. Oh, c'est dommage, mon enfant, s'il avait entendu ça, mon collègue. Et toi alors ? Comme si nous étions déjà arrivés à un haut niveau spirituel. Oh, la réprimande, ça ne nous touche plus. On ne peut plus être pris. On est déjà arrivé à un haut niveau. Ah, non. Deuxième chose, attention aussi à notre ancienneté dans la foi. Les années de vie chrétienne peuvent nous faire croire que nous n'avons plus grand-chose à apprendre. Mais c'est faux. Totalement faux. Ne plus se sentir repris par la parole de Dieu révèle que nous nous sommes en fait refroidis spirituellement. qu'il y a un vrai problème ici, là, d'orgueil. Les chrétiens matures que je connais, qui ont bien plus d'années de vie chrétienne que moi, sont bien plus conscients de leurs péchés que par le passé. Ils sont beaucoup plus touchés par les Écritures qu'avant. C'est une des marques de notre croissance spirituelle. Être encore plus conscient de l'écart énorme qu'il y a entre le bien que nous faisons et la parfaite sainteté de Dieu. L'écart est immense. Mes amis, nous échouons déjà à suivre nos propres objectifs, tous nos objectifs personnels. Nous ne pouvons donc pas oser dire que nous avons atteint la sainteté de Dieu et rempli ses exigences. Impossible ! Soyons humbles et toujours prêts à être repris par la parole de Dieu. J'aime cette citation sur la Bible qui dit ceci, « La Bible te gardera loin du péché, mais le péché te gardera loin de la Bible. » Plus on se laisse aller au péché, moins on a envie de lire la Bible ou moins on est sensible à ce que la Bible nous enseigne. Plus on passe du temps dans la parole de Dieu, plus on est sensible. Dieu nous touche, Dieu nous transforme. Faisons tout pour rester attachés à la parole de Dieu, afin de nous éloigner toujours plus du péché et de plaire à Dieu notre Père. Faisons comme le dit le psalmiste qui a écrit dans le psaume 119, verset 11, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Je me rappellerai toujours de ce frère qui se battait avec une addiction et quelqu'un lui disait « Mais comment tu as fait pour avoir la victoire ?» Il a montré sa Bible qui était ultra abîmée, tellement abîmée, parce que c'est parce qu'il a lu et médité cette parole qu'il a vécu des victoires. Est-ce que les pages de votre Bible sont abîmées? Alors souvent, pour le smartphone, on ne peut pas trop voir les pages abîmées. Dans notre texte, le peuple de Dieu, comme nous l'avons vu, a montré qu'il prenait au sérieux la parole de Dieu, non seulement en étant conscient de son péché, c'est ce qu'on va voir maintenant, mais il était aussi, au-delà d'être conscient de son péché, il a obéi à Dieu. Par exemple, dans les versets 13 à 18, les chefs des groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les lévites, voulaient étudier plus attentivement les enseignements de la loi avec Esdras. C'est énorme. Le réveil est tellement fort que le lendemain, il y a un petit groupe de personnes, ils viennent vers Esdras, ils disent « On veut encore étudier cette parole. On a fait 6 heures hier, les gars. On a soif, là. On veut comprendre. » Dès qu'ils ont découvert, ce petit groupe-là, dès qu'ils ont découvert dans la loi que les Israélites devaient vivre dans des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois, ils ont tout de suite obéi. Publication, tout le peuple est venu et ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Mes amis, c'est ce qui arrive quand nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Elle nous réprimandera pour nos péchés et elle nous conduira toujours à l'obéissance à Dieu. Toujours. Prenons constamment au sérieux la parole de Dieu dans notre vie. Comment vivre un réveil spirituel? Troisième et dernier point, expérimentons la joie de Dieu par sa parole. Expérimentons la joie de Dieu par sa parole. Lorsque la loi de Dieu a attristé le peuple, voici ce qui s'est passé dans le verset 9. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites, qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Alors quand on voit cela, juste après ce temps de larmes du peuple de Dieu, on se pose la question, mais est-ce que le peuple avait mal fait de pleurer sur son péché? Ben non, puisqu'il a été repris par la parole de Dieu. Alors, pourquoi le peuple doit-il faire la fête maintenant? Parce que c'était le premier jour de l'année civile qui devait être célébré avec joie par la fête des trompettes. Le premier jour du septième mois, donc le 8 octobre 445 avant Jésus-Christ, c'était un grand jour de repos, de souvenir, de célébration en l'honneur de l'Éternel, où le peuple doit se réjouir en Dieu, lui rendre un culte et lui exprimer sa reconnaissance. On trouve cela dans Lévitique, chapitre 23. La joie de cette fête vient de Dieu, qui est la force de son peuple, car Esdras a ajouté au verset 10 un texte que vous êtes plusieurs à connaître. Je cite, « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. » Et la suite, vous la connaissez. « Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Waouh ! C'est à ce moment-là qu'on a ce texte. Le peuple va ensuite exprimer sa joie, la joie qui vient de Dieu, à travers sa compréhension de la parole de Dieu au verset 12, que je cite, « Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. » La joie vient ici de l'enseignement qu'ils ont reçu, de la parole de Dieu. Revenons au verset 10. La joie de l'Éternel est votre force. La force peut être aussi traduite par forteresse ou protection. Donc retenez, la joie de l'Éternel est votre forteresse. La joie de l'Éternel est votre protection, on pourrait dire. Face au peuple ennemi, le peuple de Dieu peut sentir une certaine sécurité derrière ces murailles qu'ils ont reconstruites. Mais devant la loi de Dieu, il n'est pas du tout en sécurité, car il mérite le jugement de Dieu. Malheur à nous ! La loi de Dieu révèle l'étendue des péchés du peuple, mais aussi l'immensité. Plutôt, je reviens. Malheur à nous ! Nous pensions être en sécurité dans notre ville, mais nous ne le sommes pas tant que ça. En fait, encore moins qu'avant. Car nos péchés sont innombrables et nous méritons tous le jugement de Dieu. Mais alléluia, la loi de Dieu révèle l'étendue de nos péchés, mais aussi l'immensité de la grâce de Dieu. Conformément à la loi de Dieu, le peuple peut se réjouir, car la joie vient de Dieu qui est sa forteresse, sa protection face au jugement qu'il mérite, au jugement de Dieu. La tristesse du peuple de Dieu venait de la loi de Dieu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que son peuple reste dans le chagrin, dans la culpabilité. Dieu ne veut pas que nous restions désespérés à cause de nos péchés. Dieu veut nous amener à lui, qui est plein de grâce et prêt à pardonner pour que nous expérimentions sa joie. Sa joie. Il n'y a pas de plus grande joie sur terre que la joie qui vient de Dieu. En Dieu, nous pouvons éprouver la joie de son pardon, la joie de nous savoir aimés de lui, la joie de l'assurance de la vie éternelle, la joie d'une espérance solide en toutes circonstances, la joie d'un monde nouveau que Dieu prépare, où la justice habitera et où il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus la mort. En Dieu, nous pouvons surtout expérimenter la joie de sa présence. Amen. Nous ne pouvons expérimenter la joie de Dieu jour après jour qu'en méditant régulièrement sa parole. La parole de Dieu nous apporte-t-elle de la joie, les amis? Nous nourrit-elle de la personne de Dieu au point de nous amener à l'admirer, à nous émerveiller de qui est Dieu devant sa beauté, la beauté de sa grandeur, de sa justice, de sa sainteté, de sa fidélité, de sa grâce, de son amour, de sa bonté, de sa tendresse? Nous devons nous souvenir de ceci ce matin. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous nous priverons de la joie qui vient de Dieu et de sa force dans nos combats quotidiens. si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas cette parole, nous nous priverons de la joie de Dieu qui peut nous protéger contre la tentation du découragement dans l'épreuve. Contre les tentations aussi du péché et contre l'abattement suite à nos échecs. Alors mes amis, lisons et méditons quotidiennement la parole de Dieu pour expérimenter la joie du Seigneur et être soutenus par sa force dans les tentations et les épreuves de la vie. Je finis ce message avec une partie de l'introduction d'une prédication du pasteur Charles Spurgeon. Il dit ceci, voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Quand on sait qui le dit, on est vraiment touché. Un homme qui a connu la dépression, un homme qui a connu pas mal de combats, mais un homme qui connaissait Dieu, qui creusait la parole de Dieu et qui a connu la consolation de Dieu, la paix de Dieu, la joie en Dieu. Charles Spurgeon a bien raison. Méditer la parole de Dieu nous apportera de la joie et tout ce dont nous avons besoin si notre méditation est centrée sur Dieu, sur sa personne. Donc que la méditation de la Bible, que la méditation de la parole de Dieu nous amène à méditer sur Dieu lui-même, pour l'adorer et trouver toute notre joie en lui. Amen. Je conclue. Comment vivre un réveil spirituel? Je rappelle les points. Désirons ardemment écouter la parole de Dieu. Prenons au sérieux la parole de Dieu et expérimentons la joie de Dieu par sa parole. Prions. Dieu notre Père, nous voulons vivre un réveil spirituel dans notre vie et dans notre vie d'église. Envoie le réveil, notre Dieu. Agis puissamment en nous pour de profonds changements dans nos cœurs, nos pensées et nos actes, afin de grandir en sainteté et en amour pour toi et pour les autres. Notre Dieu, pardon pour toutes les fois où nous nous sommes refroidis dans notre rapport à ta parole, alors que par elle, tu veux nourrir notre foi et nous amener à ta joie, cette joie qui est éternelle et qui peut traverser toutes sortes de difficultés. Renouvelle en nous la soif de ta parole, que nous la prenions vraiment au sérieux, afin qu'elle nous touche, nous bouleverse, nous reprenne, nous pousse à faire ta volonté. Enfin, nous te demandons de nous faire expérimenter ta joie par ta parole, car c'est ce que tu veux, notre joie en toi, dans une méditation toujours plus intense de qui tu es, de ta personne, de la beauté de ta personne. Notre Dieu, dans les projets que tu as mis dans nos cœurs concernant l'agrandissement des locaux de l'église de Zoar, que ce soit surtout ta parole qui grandisse dans nos cœurs. Nous comptons sur toi pour faire cette œuvre en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.